Livre 2, chapitre 18. Le drame. Dans la grande ville, ces pauvres comédies de la jeunesse abondent. Mais quand la jeunesse est morte, toutes ces gaietés tournent au noir et la farce, monstre hideux, découvre sa queue de tragédie. Rien n'est triste autour des 20 ans. Sous ses haillons même, la jeunesse est d'or. Son joyeux rire éclate entre 2 sanglots. Et vous l'enviez au lieu de la plaindre. Étienne Roland était le fils d'un magistrat, conseiller à la cour royale de Paris, et que nous avons connu jadis juge d'instruction à Caen. Un honnête homme, jouissant à bon droit de l'estime publique et très apprécié comme jurisconsulte. Sa réputation à cet égard datait surtout de l'affaire Ménotte, dont l'instruction passait pour un véritable chef-d'œuvre. Monsieur Roland, le père, n'avait pas confiance dans le métier d'homme de lettres. Il avait dirigé son fils vers l'étude de droit, puis vers le commerce. 2 carrières assurément plus unies, sinon mieux fréquentées. Ce fou d'Étienne jeûnait volontairement pour n'être ni marchand, ni robin. Maurice avait pour père l'ancien commissaire de police de la place des Acacias, probe et zélé fonctionnaire qui était parvenu au grade de chef de division. Le baron, il faut lui rendre cette justice, était le bienfaiteur universel des Schwartz. Maurice avait obtenu une place dans la maison du baron. Les familiers du salon Schwartz ne l'aimaient pas et surprirent avec joie les premiers symptômes de l'émotion partagée entre lui, tout jeune, et Blanche, presque enfant. Cet amour et son goût pour les lettres devaient le pousser, tôt ou tard, hors de la maison. Ce fou de Maurice jeûnait donc aussi par sa faute, par sa double faute, l'amour et la poésie. Étienne et lui jeûnaient du reste assez bien, quoiqu'il y eût dans leur abstinence encore plus d'obstination que de réalité. Il faut ajouter que, dès qu'il ne jeûnait plus, il faisait bombance. Étienne Roland était un garçon de quelque esprit et de passable éducation, un peu gâté déjà par la maladie morale des pays de Bohême et d'excellente humeur, ce qui suffit amplement pour constituer la noire étoffe d'un dramaturge. Il admirait passionnément mesdames les actrices du boulevard, et ses amis ne pensaient point qu'il eût, au fond, d'autres vocations bien déterminées. Maurice Schwartz adorait sa cousine Blanche, d'autant plus ardemment qu'il était exilé, loin d'elle. Il détestait Monsieur Lecoq, ce vampire, comme il l'appelait, et cherchait un moyen de le tuer, un moyen honnête. Tant que ce mariage odieux entre Blanche et Monsieur Lecoq n'était pas célébré à la mairie et à la paroisse, Maurice gardait l'espérance de vaincre à force de gloire. Hélas, la gloire ou la prendre ? À cette question, Maurice répondait « Il y a des gens qui l'ont déniché. » C'était un cher enfant, joli en dedans comme en dehors, une nature gracieuse, flexible, séduisante, viril à 16 heures, mais toute pleine de féminine hardiesse. Comme intelligence, il valait plus qu'Étienne, qui avait néanmoins sur lui l'avantage de savoir à peu près ce qu'il voulait. Mais il valait moins que Michel, notre héros. Étienne, ayant pris son parti en brave et résolu de mener ses affaires lui-même, alla chercher dans une armoire d'attache, où il n'y avait que cela, une effrayante brassée de papier qu'il apporta sur la table. Le drame avait 50 titres pour le moins, autant d'actions diverses et 100 personnages. Mais si fréquemment que le sujet changea, 3 types restaient toujours les mêmes. Édouard, le jeune premier, Sophie, l'amoureuse, Olympe Verdier, la grande dame au passé mystérieux, parce que cela jouait bien réellement un drame vivant tout auprès du drame mort-né enseveli dans son armoire. « Il y a là des trésors, » dit Étienne en feuilletant l'amas de paperasse. « Un homme du métier y trouverait pour plus de 100 000 écus de succès. » Maurice garda le silence. « Ce n'est pas pour toi que je parle moins, » reprit Étienne. « Je fais comme si tu n'étais pas là. Je collabore avec moi-même. » Maurice sourit. « Vertu chou !» s'écrie l'autre, déjà noyé dans ses chiffons. « Je trouve ici notre idée du fils adultérin. C'est tout uniment monumental. » Maurice bâilla et quitta son siège. « Bien, bien, va te coucher, mon vieux, » reprit Étienne. « Ce n'est pas au théâtre que la fortune vient en dormant. Moi, je me sens en verve. Ah, si au lieu de toi j'avais Michel !» Le joli blond s'était dirigé vers la fenêtre. Il secoua la tête et murmura « Je ne sais pas comme j'aime Michel. » Étienne laissa un instant ses papiers en repos pour regarder Maurice. Celui-ci avait le dos touché et la figure contre les carreaux. De l'autre côté de la cour, la croisée qui faisait face était toujours éclairée, mais plus faiblement. La malade ne travaillait plus, et quand les pauvres ne travaillent plus, ils baissent leurs lampes. Maurice crut distinguer dans cette demi-obscurité une forme de jeune fille agenouillée près du lit. « Depuis jeudi, Michel m'inquiète, » dit-il avec tristesse. « Moi, il y a plus longtemps que cela, » repartit aigrement Étienne. Dans sa chambre en face, la forme agenouillée se redressa. Maurice reprit. « Nous dormons quand il rentre. »« Et il se sauve avant le jour, » l'interrompit Étienne. « Je désire me tromper, mais toutes ces cachotteries-là n'ont pas bonne odeur. » La lampe des voisines s'éteignit tout à fait. Maurice dit avec un profond soupir. « Et cette pauvre jeune fille, Mademoiselle Lebert, est bien pâle. »« Il n'y a pas au boulevard, » professa chaleureusement Étienne, « un masque aussi puissant, aussi pur, aussi dramatique que la figure de cette Aimé Lebert. » Blanche l'aime, cela doit être une âme d'élite. « Un type, c'est sûr. Dites donc, te souviens-tu de ce charlatan qui n'est pas médecin et qu'on force à traiter sa propre fille en danger de mort ? Je trouve ça sous ma main. Il y a du vitriol là-dedans. Reprenons ça en grand, veux-tu ? » Maurice s'éloigna de la fenêtre. « Que peut-il faire depuis 5 heures du matin jusqu'à minuit ? » murmura-t-il sans savoir qu'il parlait. « Ma poule ! » répliqua Étienne d'un ton de protection qui était une vengeance. « Si tu as mis dans ta petite tête l'idée de faire le tour de notre beau Michel, tu as le temps de courir, bon voyage. Je vois plus loin que le bout de mon nez, et le vertueux Michel nous en passe de sévère. » Maurice rougit et balbutia. « J'aurai son secret dans ma main fermée, que je ne l'ouvrirai pas sans sa permission. » « Tu sais bien, monsieur Bruno, » demanda brusquement Étienne, « le marchand d'habits. Parbleu, il a toute ma garde-robe et notre lettre de change. Une nuit que je revenais de chez quelqu'un, j'ai rencontré Michel, bras dessous avec monsieur Bruno. Il y a du temps que Michel n'a plus d'habits à vendre. Quoi d'étonnant, Michel a endossé la lettre de change. Voilà, le lendemain, je dis à Michel, « quelle homme est-ce donc que ce monsieur Bruno ?» Il me répondit, « je ne le connais pas. » Michel n'a jamais menti. Excepté ce matin-là. Oh, mais écoute, voici notre idée de trois pattes. Un déguisement, une vengeance, un grand secret à pénétrer. Sais-tu que c'est beau comme les sauvageries de Cooper, cette machine-là ?
Oui, dit Maurice avec distraction. Je me souviens que cela me plaisait. Il gagna le lit sur lequel il s'étendit nonchalamment.
Veux-tu y revenir ?
Non, je ne veux plus rien. Et pourtant, s'interrompit-il en se soulevant sur le coude, il y a là-dedans quelque chose, et je me souviens que cette idée m'a échauffé une fois déjà. Les sauvages de Cooper en plein Paris. La grande ville n'était pas aussi mystérieuse que les forêts vierges du Nouveau Monde. Se mutiler suivant patiemment une piste au milieu de nos rues, où tant de pistes se croisent. Cette haine acharnée qui se voile sous une hideuse et lamentable infirmité. Je lui voudrais une fille à ce monstre. Un fils plutôt, qu'il dote du fond de sa misère. La pension de Michel.
Tonnerre ! S'écria Étienne, pâle d'émotion. « Tu as mis dans le blanc, pour le coup. »
J'étais séduit par une image. Je voyais ce misérable noyé sous le flot humain et dont la tête est un pavé sur lequel tout pied marche.
Je le voyais, gardant assez de vertu pour tendre un bras infatigable et soutenir, tout au bout de ce bras, un être cher au-dessus du niveau qui le submerge. « Si ce n'est pas un drame, cela, je veux être teneur de livre. »
Je le voyais ainsi.
« Eh bien,
je ne le vois plus. » Étienne donna un grand coup de poing sur la table et lança les papiers à l'autre bout de la chambre.
« Monsieur le voyait, » grinça-t-il. « Monsieur ne le voit plus. J'ai l'honneur apparemment de porter un fantaisiste qui a du foin dans ses bottes. Les hommes calés ont droit de caprice comme les jolies femmes. Monsieur voudrait-il m'offrir un cigare au nom d'une vieille et sincère amitié ?»«
Je n'ai pas de cigare, mon pauvre Étienne. » »«
10 centimes pour en acheter un, alors ?» Mais tu n'as pas 10 centimes non plus, détestable poseur. Tu vois, tu ne vois pas. Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on ne voit pas ? On fait un drame, ventre bleu. Et puis après nous, la fin du monde.
Faisons la fin du monde, dit Maurice en riant. Étienne sauta d'un bon demi-pied sur sa chaise.
Splendide sur une affiche, s'écria-t-il. Est-ce sérieux ce que tu proposes là ?
Non, ce n'est pas sérieux. Notre bourse n'est pas plus vite que ma tête. Étienne, formellement habitué à cette gymnastique, retomba soudain du haut de son enthousiasme.
« Allons, » dit-il sans trop d'amertume, « cette fois je vais me coucher, ma poule. Si ta cousine Blanche aime les jeunes seigneurs qui ont juste l'énergie du linge mouillé, je m'invite à ta noce. »
Cette parole n'était pas encore tombée de sa bouche qu'il la regrettait déjà cruellement, car Maurice avait des larmes dans les yeux. Étienne se précipita vers lui, les mains tendues. « Tu pleures ? » s'écria-t-il. « Je suis plus maide encore que je ne croyais. »« Pauvre ami, » répliqua Maurice en souriant avec tristesse, « ne te reproche rien. » C'est ma propre pensée qui me blesse, bien plus que ton innocente moquerie. Tu ne me diras jamais les injures dont je m'accable moi-même. Il y a en moi un symptôme étrange. On dirait que je vise plus haut à mesure que je me sens plus faible. Et le temps passe. Et si Blanche se marie, je me brûlerai la cervelle. Ceci fut dit froidement et simplement. Étienne eut peur. Il fera jour demain, répéta Maurice qui rêvait, puis après un silence. Ce ne sont pas les idées qui nous manquent. Qu'est-ce qu'une idée? La même idée peut être Dieu, table ou cuvette, comme le bloc de la fable. Phidias en tirera Dieu, le marbrier dramatique qui taillera l'éternelle cuvette où le boulevard enrhumé vide les marécages de son cerveau. Je ne veux pas déshonorer le marbre de Paros. Il n'est pas l'heure pour moi de toucher à l'idée qui me sacrera poète. Je le sais, je le sens. Et pourtant, du fond de ma conscience, je puis m'écrier en me touchant le front. Il y a quelque chose là. Je vois un drame bizarre, curieux, mystérieux, émouvant, et qui pourtant ne touche à rien de ce que je veux garder pour la lutte décisive. L'idée n'est pas nouvelle pour nous. Elle nous vint ce soir où nous entendîmes un homme prononcer tout bas, avec un point d'interrogation au bout, la parole proverbiale qui vient de t'échapper. « Fera-t-il jour demain ?» l'interrompit Étienne, déjà réchauffé au rouge. « Ah, tonnerre, voilà un filon. Une immense association de voleurs. Qu'en sais-tu ? Ou bien une affiliation politique ? Qui te l'a dit ? Personne, mais toi-même. Moi, je marche à tâtons. C'est ma force, car on agit en cherchant, et chercher sur l'action même de mon drame. » Étienne se gratta l'oreille avec activité. « Pendant 5 actes, grommela-t-il. Toujours la même charade. » Maurice le dominait de toute la tête et son œil brillait comme une flamme. « Pendant 50 actes, si je veux, » s'écria-t-il, rendu à toute son impétuosité d'enfant. « Et toutes les énigmes de la terre, entends-tu ? Et jamais la même. Je vois la grande ville de Paris divisée en 2 catégories bien tranchées. Ceux qui connaissent le mot d'ordre et ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce tout ? Non, car Michel n'est pas dans le secret. Et pourtant, il se sert du mot d'ordre pour ses manœuvres galantes. Si toutefois les manœuvres de Michel contiennent un atome de galanterie. Je l'ai entendu, ce Michel, donner des instructions à notre comique, l'ancien maître à danser Similor. Similor a dit demander ce soir même à certains personnages, romanesques de la tête aux pieds, occupés à regarder couler l'eau du canal de l'Ourcq, fera-t-il jour demain ? C'est inouï de curiosité, dit Étienne. Écris tout cela. J'écris, mais sais-tu que Michel joue avec le feu ? Devine-t-on à quelle diabolique menée peut toucher ce mot de ralliement ? On ne le devine pas. Écris que Michel joue avec le feu.
Le nom de Michel ?
Notre beau ténébreux à nous s'appelle Édouard. Écrit « Édouard joue avec le feu ». Voici une singulière figure, notre voisin, monsieur Lecoq. On dit que ces cartons contiennent tous les mystères de Paris. J'ai heurté l'autre soir mon oncle, le baron Schwartz, qui sonnait à sa porte. Écrit.
Le baron Schwartz en toutes lettres ?
Non, certes, il s'agit de fiction. Olympe Verdier est comtesse, pour le moins, dans ton idée, n'est-ce pas ? Oui, certes. Écrit donc le comte Verdier. Étienne lâcha sa plume pour battre les mains. Puis avec une sorte d'effroi.
« Si c'était cela, pourtant »
murmura-t-il. « Que nous importe ? Nous faisons un drame pour l'ambigu comique. Nous tricotons un bas de laine. Rien autre chose ne nous occupe. Hausse-toi sur tes pointes. Que vois-tu ? L'homme qui contemple l'eau courante a une livrée grise avec des boutons d'argent. C'est Édouard qui l'a désigné ainsi à Similor. Connais-tu la livrée du comte Verdier ? Il voit tout, couleur de la Banque de France. » Est-ce au comte Verdier ou à la comtesse que Michel, je veux dire Édouard, envoie des mots d'ordre ? La fameuse femme voilée qui perdit un bouton de diamant à notre porte, je ne pense pas que ce fût le comte Verdier. Non, nous tenons le rôle de la comtesse. Écris, ma vieille, je vois la queue de l'ambigu se dérouler jusqu'au canal.
À la bonne heure, petit, à la bonne heure, te voilà lancé, hop, hop !
La comtesse n'en est plus à l'attaque. Elle a gagné toutes les batailles. Son rôle est la défense, elle garde son secret. Le comte écrit qu'il aime comme un jeune homme. Verdier n'est pas un homme d'Alsace. Il est alsacien pourtant, et ces Alsaciens sont jaloux plus que les tigres. Celui-là poursuit un secret et défend un autre secret. Fera-t-il jour demain ? Il chasse, il est chassé. Chien et gibier tour à tour, au son de la même fanfare. Fera-t-il jour demain? Il y a là tout un monde. Maurice parlait haut, comme il convient à un oracle. Pendant qu'Étienne écoutait respectueusement, prenant les notes nécessaires, un bruit léger se fit dans la pièce voisine qui servait de chambre à coucher à Michel quand ce héros daignait dormir comme un simple mortel. Étienne entendit et voulut prêter l'oreille, mais Maurice continuait. « Et Sophie, examine-moi bien ces traits délicats, cette adorable beauté voilée de souffrance. Aimée Lebert a été riche, je t'en réponds. Elle ou son père ou sa mère, elle descend de haut. Qu'elle le veuille ou non, elle va rebondir ou mourir. C'est la loi. Entre elle et la femme voilée, lutte mortelle. Nous ne savons pas l'histoire de cette vieille mère malade, toujours triste et douce, et qu'on n'a jamais vue sourire. Nous ne la savons pas, nous la ferons avec du sang et des larmes. Écris, morbleu. On a remué dans la chambre de Michel, dit Étienne. Es-tu là, volcan? Cria Maurice, moitié railleur, moitié fou. Es-tu là, don Juan, cœur banal, martyr plutôt, malade des fièvres du siècle? Es-tu là, Édouard? Es-tu là, Francisque de la Gaîté, Albert de l'Ambigu, Recours de la Porte Saint-Martin? Veux-tu que j'aille voir? Demanda Étienne. Il n'y est pas. Restez, écrit. Ce n'est pas lui qui remue près de nous. C'est le drame qui va rampant sur la trace du secret. Qui vive? L'imprévu, l'inconnu, l'impossible. Fera-t-il jour demain? Oui, pour ceux qui vivront. Non, pour ceux qu'on va tuer. Le comte à ses limiers, la comtesse à ses créatures. Regarde. Ne vois-tu point surgir cette figure neutre qui semble glisser dans la vie comme une passion profonde et taciturne qui a pris corps? Où va-t-il? Que veut-il? Peut-être ne se doute-t-il de rien, ce marchand, ce bourgeois, cette énigme. Peut-être nous tient-il tous dans sa main, ce lourd diplomate. Nous lui chercherons un nom plus tard. Écris son vrai nom, Monsieur Bruno.
Sur ma parole, s'écria Étienne, on a bougé dans la chambre.
Écris. Le présent est enveloppé d'un nuage qui porte la tempête. Mais le passé. Il y a dans le passé une bien lugubre histoire. Associons les idées. C'est du choc de ces nuées que jaillit la foudre. Ce caliban, trois pattes. Le voici, c'est le passé. Tout ce qui reste d'un bonheur éclatant. D'une jeunesse victorieuse. Le récit du troisième acte, le grand nœud. Ou bien encore le coup de tonnerre qui retentit au dénouement.
Prodigieux, dit Étienne dans son admirable bonne foi. « Écrasant. Mais sais-tu, il faut bien rire un petit peu, et je ne vois pas les comiques.
Nous n'y sommes pas encore, quand nous saurons le secret, pas avant. À l'heure qu'il est, il faut tuer par le poison ou par le fer, sans pitié. Manger ou être mangé, tel est le sort. Fera-t-il jour demain? Oui. Alors marchons, c'est que le moment est venu. Pénétrons à bas bruit dans la chambre à coucher de la comtesse. Non pas nous, mais des mercenaires dont le poignard s'achète à prix d'or. De ces gens qu'on trouve partout à Paris comme à Venise, qu'on trouve toujours au XIXe siècle comme au Moyen-Âge, dès qu'il y a un crime à commettre et une bourse à recevoir. De ces instruments, enfin.
Les bétons d'avant, ces instruments?
Les bétons d'avant, ces instruments? Demanda derrière eux une voix doucereuse, effrontée et timide à la fois. Ce fut un rude coup de théâtre. Celui-là, Maurice ne l'avait pas inventé. Nos collaborateurs tressaillirent tous deux, et la plume s'échappa des mains d'Étienne qui resta tout tremblant. Maurice, plus brave, s'était mis sur ses pieds et faisait déjà tête à l'ennemi. L'ennemi était double. Il y avait deux pauvres diables debout devant la porte qui s'était ouverte et refermée sans bruit. Échalot et Similor, à qui leurs chaussons de lisière donnaient un pas de velours. Échalot, portant au dos Saladin, Similor marchait libre dans la vie. Assez crâne tous deux en apparence, mais montrant le bout de l'oreille de l'embarras, pâle, ému, le chapeau à la main et le regard errant. Échalot remonta son nourrisson comme un sac militaire pour se donner une contenance. Bien que la faible créature ne cria pas pour le moment, il lui ordonna de rester en repos. Similor toussa sec et haut. « Voilà, dit-il, assurant sa voix de son mieux. Échalot et moi, nous sommes des jeunes gens pas fortunés, avec des charges, prêts à tout pour nous ménager une position plus heureuse que la nôtre. Et un autre enfant de l'amour, innocent des fautes de sa mère. On a pu faire des farces d'adolescents à l'époque, coups de tête, bambouches et autres. C'est la prudence de cet âge-là. Mais on veut se ranger, bon pied bon œil et au petit bonheur, et l'on est décidé à travailler ensemble sous vos ordres jusqu'à la mort. Voilà, répéta Échalot avec noblesse. Et la paix, Saladin, Pierrot !»